Chapitre 26. Durant les 142 jours que le père capitaine de Soya passe à attendre la fillette et son vaisseau dans le système Renaissance, il rêve d'elle presque toutes les nuits. Il la revoit clairement telle qu'elle lui est apparue pour la première fois à sa sortie du Sphinx, mince comme un saule, le regard en alerte, mais nullement effrayé malgré la tempête qui faisait rage et les silhouettes menaçantes autour d'elle, ses deux petites mains en partie dressées comme pour se cacher la face ou encore pour se précipiter dans ses bras. Souvent, dans ses rêves, c'est sa fille qu'il voit là, et ils se promènent ensemble dans les rues canaux pleines de monde du vecteur Renaissance, en discutant de la sœur aînée de Soya, Maria, que l'on vient d'admettre au centre médical de Saint-Jude à Vinci. En rêve, il se voit avancer main dans la main avec l'enfant dans les rues canaux familières du quartier de l'énorme complexe hospitalier, tandis qu'il lui explique ce qu'il compte faire pour sauver la vie de sa sœur cette fois-ci, car il n'a pas l'intention de la laisser mourir comme la première fois. En réalité, Federico de Soya n'avait que 6 années standard lorsque sa famille et lui sont arrivés sur le vecteur Renaissance en provenance des régions désolées du Llano Estacado, sur le monde provincial de Madre de Dios. Presque tout le monde, sur cette planète peu peuplée, essentiellement formée de déserts caillouteux, était catholique mais sans être régénéré par la Pax. La famille de Soya faisait partie du mouvement schismatique marialiste et avait quitté la Nouvelle Madrid plus d'un siècle auparavant, lorsque cette planète avait manifesté par référendum sa volonté d'entrer dans la Pax et de soumettre toutes ses églises chrétiennes au Vatican. Les marialistes vénéraient la Sainte Mère du Christ avec plus de ferveur que la hiérarchie orthodoxe du Vatican ne l'autorisait, de sorte que le jeune Federico avait grandi sur un monde désert marginal où une colonie dévote de 60 000 catholiques hérétiques refusait, en manière de protestation, d'accepter le cruciforme. C'est alors que la jeune Maria, âgée seulement de 12 ans, avait attrapé un virus venu d'un autre monde qui avait balayé de sa faux les régions agricoles de la planète. La plupart des personnes atteintes de la mort rouge mouraient au bout de 32 heures ou guérissaient, mais Maria avait traîné, son visage au trait naguère si pur, assombri par les terribles stigmates pourpres. Sa famille l'avait conduite à l'hôpital de Ciudad del Madre, dans les régions méridionales balayées par le vent du Llano Estacado, mais les médecins marialistes n'avaient rien pu faire d'autre que prier. Il y avait une mission de chrétiens régénérés de la Pax à Ciudad del Madre, mal vue mais tolérée par les autochtones. Le prêtre de cette mission, un brave homme qui s'appelait le père Maher, avait supplié le père de Federico d'accepter le cruciforme pour l'enfant agonisante. Federico était alors trop jeune pour se souvenir de tous les détails des discussions, mais il avait gardé l'image de toute la famille, sa mère, son père, ses 2 autres sœurs et son jeune frère, agenouillés dans l'église marialiste pour prier la Sainte Mère qu'elle les guide et intercède en faveur de la petite fille. Les autres fermiers de la coopérative marialiste du Llano Estacado s'étaient cotisés pour envoyer la famille dans l'un des fameux centres médicaux du vecteur Renaissance. Pendant que son frère et ses 2 sœurs étaient gardés par une famille voisine, Federico, âgé de 6 ans, avait été choisi, il ne se rappelait plus pourquoi, pour accompagner ses parents et sa grande sœur mourante dans leur long voyage interplanétaire. Aucun d'eux n'avait jamais fait jusque-là l'expérience du sommeil froid, plus dangereux mais bien moins coûteux que la fugue cryotechnique. Et de Soya, plus tard, n'avait jamais oublié cette sensation d'avoir les os glacés jusqu'à la moelle qui ne l'avait jamais quitté durant tout son séjour sur le vecteur Renaissance. Au début, les médecins de la Pax à Vinci semblèrent arrêter la progression de la mort rouge dans l'organisme de Maria. Ils réussirent même à faire régresser une partie des stigmates sanglants. Mais au bout de 3 semaines de temps local, le virus reprit le dessus. De nouveau, un prêtre de la Pax, et même plusieurs qui faisaient partie du personnel de l'hôpital, supplièrent les parents de la petite fille de faire une entorse à leurs principes marialistes et d'accepter pour elle le cruciforme avant qu'il ne soit trop tard. Des années après, devenu adulte, Federico put mieux imaginer les affres de la décision que ses parents eurent à prendre, la mort de l'une de leurs croyances les plus sacrées ou la mort de leur fille. Dans son rêve, où Aînée est sa fille et où il se promène dans une rue canal du quartier de l'hôpital, il lui raconte comment Maria lui a fait cadeau de l'un des objets auxquels elle tenait le plus, une figurine en porcelaine représentant une licorne, quelques heures à peine avant de glisser dans le coma. Toujours dans son rêve, il marche à côté de la petite fille de 12 ans en lui donnant la main et lui explique comment son père, un homme solide à la fois dans son corps et dans ses croyances, a finalement cédé en demandant à la Pax d'administrer à sa fille le sacrement de la croix. Les prêtres de l'hôpital acceptèrent naturellement, mais exigèrent que les parents de Federico et lui-même se convertissent au catholicisme universel avant que Maria pût recevoir le cruciforme. Il explique tout cela à Aînée, sa fille. Il se souvient très bien de la brève cérémonie du second baptême à la cathédrale locale de Saint-Jean-le-Divin, où ses parents et lui ont renoncé à l'ascendant de la Sainte Mère et accepté la seule domination de Jésus-Christ, représentée par le Vatican, sur leur vie religieuse. Il se souvient d'avoir reçu, ce soir-là, la première communion en même temps que le cruciforme. L'administration du sacrement de la croix à l'enfant malade était prévue pour 22 heures. Elle mourut subitement à 20h45. Compte tenu des règles de l'Église et des lois de la Pax, quelqu'un qui connaissait la mort cérébrale avant de recevoir la croix ne pouvait plus être régénéré artificiellement pour l'accepter. Au lieu de se mettre en colère ou de s'estimer trahi par sa nouvelle Église, le père de Federico considéra la tragédie comme le signe que Dieu, non pas le Dieu qu'il avait vénéré dans sa jeunesse, le gentil fils imprégné du principe féminin universel de la Sainte Mère, mais le Dieu plus féroce du Nouveau et de l'Ancien Testament de l'Église universelle, l'avait puni avec sa famille et le monde marialiste du Llano Estacado tout entier. De retour à leur monde natal avec le corps de la petite fille tout vêtue de blanc pour ses funérailles, De Soya père se fit l'apôtre impénitent du catholicisme selon la Pax. Cela survenait à une époque propice où les familles du voisinage étaient décimées par la mort rouge. À l'âge de 7 ans, Federico fut envoyé à l'école de la Pax de Ciudad del Madre et ses sœurs dans un couvent du nord du Llano. Du vivant de son père, et même avant que Federico fût dirigé sur la Nouvelle Madrid avec le père Maher, pour y suivre les cours du séminaire de Saint Thomas, tous les marialistes survivants de Madre de Dios s'étaient convertis au catholicisme de la Pax. La mort tragique de Maria avait conduit à la régénération de tout un monde. Dans ses rêves, le père capitaine de Soya n'explique qu'une petite partie de ces choses à l'enfant qui marche à ses côtés dans les rues de Vinci, familière comme un cauchemar. La petite aînée semble déjà au courant de tout. Il rêve presque chaque nuit durant les 142 jours que dure l'attente du vaisseau. Il explique à l'enfant comment il a découvert le secret qui permet de guérir de la mort rouge et de sauver sa sœur. Le premier matin où il se réveille en sueur, le cœur battant, il se dit que le secret réside dans le cruciforme, mais le rêve du lendemain lui donne le démenti. Le secret, semble-t-il, est de lui rendre sa licorne. Tout ce qu'il a à faire, explique-t-il à Aînée, sa fille, c'est retrouver l'hôpital à travers ce dédale de rue, et il la sauvera en lui donnant la licorne. Mais il ne réussit pas à trouver le centre médical. Le dédale a raison de lui. Près de 5 mois plus tard, la veille de l'arrivée du vaisseau en provenance du système de Parvati, dans une variante du même rêve, De Soya reconnaît le centre médical de Jude, où sa sœur est en train de dormir, mais se rend compte, avec une horreur grandissante, qu'il a perdu la figurine. Dans ce rêve-là, Aînée parle pour la première fois. Sortant la petite statue de porcelaine de la poche de son chemisier, l'enfant murmure. « Vous voyez, nous l'avons sur nous depuis tout ce temps. » La réalité des mois passés par De Soya dans le système Renaissance est, littéralement, comme au figuré, à des années-lumière de son expérience de Parvati. À l'insu de ses 4 occupants, qui ne sont plus que des cadavres mutilés au cœur des crèches de résurrection du Raphaël, le vaisseau est intercepté moins d'une heure après avoir translaté dans le système. Deux croiseurs de reconnaissance de la Pax et un vaisseau torche se rangent bord à bord avec lui, après avoir échangé des codes de transpondeur et des données avec l'ordinateur du Raphaël. Il est aussitôt décidé que les quatre corps seront transférés dans un centre de résurrection de la Pax sur le vecteur Renaissance. Contrairement à leur réveil solitaire dans le système de Parvati, De Soya et ses gardes suisses reprennent conscience entourés des soins et des égards dus à leur état. En fait, la résurrection se passe assez mal pour le père capitaine et pour le caporal. Les deux hommes sont ramenés à la crèche pour y passer 3 jours supplémentaires. Plus tard, De Soya spéculera pour savoir si les installations automatiques de résurrection du Raphaël auraient été à la hauteur de la tâche. En l'occurrence, les quatre hommes se retrouvent une semaine après leur arrivée dans le système. Chacun est assisté d'un chapelain conseil. Le sergent Grégorius ne voit pas très bien l'utilité de la chose. Il est désireux et impatient de retourner à son devoir. Mais De Soya et les deux autres sont heureux d'avoir ce petit répit après le traumatisme de leur mort. Le Saint-Antoine se translate quelques heures seulement après le Raphaël. Finalement, De Soya se retrouve face à face avec le capitaine Sati du vaisseau Torche et le capitaine Lamprière du transport de troupes Saint-Thomas Akira, de retour à sa base de Renaissance, avec plus de 1800 soldats morts et congelés et 2300 blessés, hommes et femmes, rescapés du carnage du système d'Hyperion. Les hôpitaux et cathédrales du vecteur Renaissance et des bases orbitales de la Pax commencent aussitôt les opérations de chirurgie et de résurrection. De Soya est présent au chevet de la commandante Barnes Avni lorsqu'elle reprend vie et conscience. La petite rouquine ne semble plus être la même personne. Elle est diminuée à un point qui fait douloureusement vibrer de pitié le cœur de De Soya. Elle a le crâne rasé, la peau encore rouge et luisante de sa toute récente régénération, et elle ne porte qu'une robe d'hôpital. Mais son agressivité et son mauvais caractère habituel n'ont pas changé. Dès qu'elle le voit, ou presque, elle demande « Qu'est-ce qui s'est passé, bon Dieu ?» De Soya lui raconte le carnage opéré par le Gritch. Il la met au courant des événements des 7 mois durant lesquels il a donné la chasse à la fillette, pendant qu'elle était en hibernation de 4 mois dans son vaisseau qui la ramenait d'Hyperion. « Vous avez vraiment manché le caniche, hein ?» demande-t-elle. De Soya a un petit sourire. Jusque-là, la commandante de la force au sol est la seule à oser lui parler sur ce ton. Il n'a que trop conscience d'avoir eu des relations charnelles métaphoriques avec le caniche proverbial. Par 2 fois, on lui a confié le commandement d'une opération de la Pax ne comportant qu'un seul objectif, s'emparer d'une gamine. Et par 2 fois, il a échoué lamentablement. Il s'attend, à tout le moins, à être relevé de ses fonctions. Le plus probable est qu'il sera traduit en cour martiale. Dans cette optique, lorsqu'un courrier archange arrive dans le système, 2 mois avant le vaisseau de la fillette, De Soya lui ordonne de retourner aussitôt sur Passem pour annoncer son échec et revenir avec des instructions du haut commandement de la Pax. En attendant d'être remplacé, conclut le père capitaine De Soya dans son message, il continuera d'organiser en détail la capture de la fillette à son arrivée dans le système. Les ressources dont il dispose cette fois-ci sont impressionnantes. Outre 200 000 hommes de troupes, parmi lesquels plusieurs milliers de fusiliers marins d'élite de la Pax et quelques brigades de gardes suisses rescapés d'Hyperion, il peut faire appel à d'importantes forces spatiales et navales. Actuellement présents dans le système de Renaissance et susceptibles d'être réquisitionnés en vertu de l'autorité de son disque papal, il y a 27 vaisseaux torches, dont 8 de la classe Oméga, 108 croiseurs gigognes de reconnaissance, dont le rôle consiste à opérer en avant des vaisseaux torches, 6 vaisseaux de commandement C3 escortés de leurs essaims d'attaque de 36 LMA ultra-rapides, le gros porteur Saint-Malo, avec plus de 200 chasseurs scorpions aérospatiaux et 7000 hommes à bord, le vieil Aviso Gloire de Brescia, aujourd'hui rebaptisé Jacob II, plusieurs transports de troupes renforçant le Saint-Thomas Akira, une 20aine de destroyers de classe Bénédiction, 58 patrouilleurs de périmètre de défense, dont 3 seulement suffiraient à interdire l'accès de toute une planète ou à protéger tout un convoi spatial, auxquels il convient d'ajouter un peu plus d'une centaine de vaisseaux divers, parmi lesquels des frégates interplanétaires porteuses de missiles mortels en combat rapproché, des dragueurs de mines, des courriers interplanétaires, des drones et, naturellement, le Raphaël. 3 jours après le renvoi sur Passem du second courrier Archange et 7 semaines avant l'arrivée d'Aîné, le corps expéditionnaire mage de la Pax arrive. Il y a là le Melchior, le Gaspard et le vieux vaisseau du père capitaine de Soya, le Balthazar. Au début, de Soya est ému de revoir ses anciens compagnons, mais il se rend compte ensuite qu'ils vont assister à son humiliation. Il va néanmoins les saluer avec le Raphaël, alors qu'ils sont encore à Sisua de Renaissance, et la première chose que fait la mère capitaine Stone à son arrivée sur le Balthazar est de lui remettre le sac d'affaires personnelles qu'il a été forcé de laisser derrière lui. Posé sur ses vêtements soigneusement pliés, bien emballés dans de la mousse, il voit la licorne de porcelaine que lui a offerte sa sœur Maria. De Soya veut être honnête avec le capitaine Hearn, la mère capitaine Boulez et la mère commandante Stone. Il leur résume les préparatifs auxquels il s'est livré, mais leur annonce qu'un nouveau commandant va sans doute arriver avant le vaisseau de la fille. 2 jours plus tard, ces propos sont démentis par la venue du courrier Archange qui se translate dans leur système avec 2 personnes à son bord. Le capitaine Margaret Wu, aide de camp de l'amiral de la flotte Marussine, et le père Brown, un jésuite qui occupe les fonctions de conseiller spécial auprès de Monseigneur Luca Audi, sous-secrétaire d'État du Vatican et confident du secrétaire d'État Simon Augustino, cardinal de Lourdes-Samy. Les ordres cachetés du capitaine Wu adressés à De Soya sont accompagnés d'instructions autorisant leur ouverture avant la résurrection de celle qui les apporte. Il en prend donc aussitôt connaissance. Les instructions sont parfaitement claires. Il doit poursuivre sa mission consistant à s'emparer de l'enfant et ne sera en aucun cas relevé de ses fonctions. Le capitaine Wu, le père Brown et les autres dignitaires qui viennent d'arriver dans le système n'ont qu'un rôle d'observateur chargé de souligner, si nécessaire, l'autorité totale du père capitaine de Soya sur tous les officiers de la Pax dans la poursuite de cet objectif. Cette autorité a été acceptée avec réticence au cours de ces dernières semaines. Il y a actuellement 3 amiraux de la flotte et 11 commandants de la force au sol dans le système Renaissance, et aucun d'eux n'a l'habitude de recevoir des ordres d'un simple père capitaine. Mais le disque papal a été entendu et obéi. Aujourd'hui, alors que les dernières semaines s'écoulent, De Soya met la dernière main au dispositif qu'il a préparé et rencontre les commandants militaires et les responsables civils à tous les niveaux, jusqu'aux maires de Vinci et de Benedetto, Toscanelli, Fioravante, Botticelli et Masaccio. Les derniers jours, alors que tous les plans sont au point et que les différentes forces sont vues assigner leur mission, le capitaine de Soya trouve enfin le temps de se livrer à quelques réflexions et activités personnelles. Dans l'isolement de ses quartiers, à l'écart du chaos contrôlé des réunions d'état-major et des simulations tactiques, séparé pour une fois de Grégorius, Key et Rettig, qui ont accepté de lui servir de garde du corps, il déambule dans les rues de Vinci où ses pas le conduisent jusque dans le centre médical de Saint-Jude. Le souvenir de sa sœur Maria le hante. Il découvre alors que, d'une certaine manière, les rêves qu'il fait chaque nuit sont plus impressionnants que la réalité des lieux. Il a appris que son ancien patron en religion, le père Maher, sert depuis plusieurs années comme recteur au monastère bénédictin de l'Ascension de la cité-région de Florence, dans l'hémisphère du vecteur Renaissance opposé à celui de Vinci. Il prend l'avion pour aller passer un long après-midi en compagnie du vieillard. Le père Maher, à présent âgé de près de 90 ans et impatient d'entamer ma première vie nouvelle dans le Christ, est aussi doux, optimiste et patient que lorsque De Soya l'a connu une 30aine d'années auparavant. Il est retourné, semble-t-il, sur Madre de Dios plus récemment que De Soya.
« Le llano estacado est désert, » lui dit-il. « Les ranches sont à l'abandon. Ciudad del Madre n'a plus que quelques douzaines d'habitants, Et ce sont uniquement des chercheurs de la Pax, venus voir si la planète vaut vraiment la peine d'être terraformée.
Je sais, fait De Soya. Ma famille est retournée vivre à Nuevo Madrid il y a un peu plus d'une vingtaine d'années standard. Mes sœurs sont entrées au service de l'Église. Loretta est devenue nonne à Nevermore et Melinda fait partie de la prêtrise de Nuevo Madrid.
« Et votre frère, Esteban ?»
demande le père Maher avec un sourire chaleureux. De Soya prend une inspiration profonde. Il a été tué par les extros l'année dernière au cours d'une bataille spatiale. Son vaisseau a été vaporisé. On n'a retrouvé aucun corps. Le père Maher cligne des paupières comme s'il venait de recevoir un soufflet.
« Je n'étais pas au courant, » dit-il.
« Ça ne m'étonne pas. Cela s'est passé très loin, plus loin que les anciens confins. Même ma famille n'a pas encore été mise officiellement au courant. Je ne l'ai appris que parce que l'une de mes missions m'a conduit non loin de ce secteur et que j'ai rencontré un capitaine qui en revenait et qui m'a tout raconté. » Le père Maher secoue son crâne chauve étavelé.
« Esteban a trouvé la seule résurrection promise par notre Seigneur, »
murmure-t-il, les larmes aux yeux.
« La résurrection éternelle dans notre Sauveur Jésus-Christ. »
« C'est vrai, » fait De Soya. « Est-ce que vous buvez toujours du scotch, père Maher ?» demande-t-il quelques instants plus tard. Les yeux chassieux du vieillard se lèvent pour rencontrer le regard de son interlocuteur.
« Oui, mais uniquement pour des raisons médicales, père capitaine De Soya. »
Ce dernier hausse ses sourcils bruns. «
Je n'ai pas encore récupéré de ma dernière résurrection, » dit-il.
Le vieux prêtre hoche gravement la tête.
« Et moi, je me prépare à ma première, père capitaine. Je dois avoir une bouteille poussiéreuse qui traîne par ici. »
Le dimanche suivant, De Soya célèbre la messe dans la cathédrale de Saint-Jean-le-Divin, où il a accepté la croix il y a de nombreuses années de cela. Plus de 800 fidèles sont présents, parmi lesquels le père Maher et le père Brown, conseillers avisés et intelligents de Monseigneur Audi. Le sergent Grégorius, le caporal Key et le lancier Rettig sont également là et reçoivent la communion des mains de De Soya. Cette nuit-là, le père capitaine rêve de nouveau d'aîné.
Comment se fait-il que tu sois ma fille ?
Lui demande-t-il.
J'ai toujours honoré mon vœu de chasteté.
L'enfant sourit en lui prenant la main. 100 heures avant la translation prévue du vaisseau de l'enfant, De Soya ordonne à sa flotte de prendre position. Le point de translation est dangereusement proche du puits gravifique du vecteur Renaissance et plusieurs experts craignent que le vieux vaisseau ne craque, soit sous l'action du couple de gravité, dû à la sortie beaucoup trop voisine des vitesses C+, soit à cause de la terrible décélération nécessaire pour se poser sur l'une des planètes. Mais ils évitent de trop faire part de leurs doutes, de même qu'ils refoulent leur frustration à l'idée d'être bloqués dans le système Renaissance, alors qu'ils avaient, pour la plupart, des missions à accomplir dans la zone frontière ou même dans l'espace extro. Ce contretemps a le don d'exaspérer bon nombre d'officiers. C'est en grande partie à cause de cette tension sous-jacente que le père capitaine De Soya convoque une assemblée de tous les officiers opérationnels 10 heures avant le moment estimé de la translation. Ces réunions, en général, se font sur liaison étroite, mais De Soya demande à toutes les femmes et à tous les hommes concernés de venir physiquement sur le porteur Saint-Malo. La salle de conférence de l'énorme vaisseau est assez vaste pour contenir tout le monde. De Soya commence par passer en revue les scénarios sur lesquels il travaille maintenant depuis des semaines et parfois des mois. Si l'enfant menace de nouveau de se détruire, 3 vaisseaux-torches, l'ancien corps expéditionnaire mage de Soya, convergeront immédiatement sur son vaisseau, l'entoureront de champs de confinement de classe 10, plongeant tous ses occupants dans l'inconscience et maintenant le bâtiment en état de stase jusqu'à ce que le Jacob puisse le prendre en remorque avec ses puissants générateurs de champ. Si le vaisseau tente de quitter le système comme il l'a fait à Parvati, Les chasseurs rapides et croiseurs de reconnaissance le harcèleront pendant que les vaisseaux torches manœuvreront de manière à lui couper toute retraite. De Soya marque une pause dans son exposé.
« Avez-vous des questions ?» demande-t-il.
Parmi les visages familiers de l'assistance, il aperçoit dans les travées de l'amphithéâtre les capitaines Lamprière, Sati, Wu et Hearn, ainsi que le père Brown, la mère capitaine Boulez, la mère commandante Stone et la commandante Barnes-Avny. Le sergent Gregorius, Key et Rettig sont en position de repos réglementaire au fond de la salle. Ils ne figurent parmi cette auguste compagnie qu'à titre de garde du corps du père capitaine. Le capitaine Margaret Wu prend la parole.
« Et si le vaisseau essayait de se poser sur le vecteur, sur Minor ou sur une lune ?»
De Soya descend du podium.
« Nous en avons déjà discuté lors de notre dernière assemblée, » dit-il. « Si le vaisseau cherche à se poser, nous déciderons en conséquence. »
« En fonction de quels critères, père capitaine ?»
demande un amiral de la flotte nommé Serra, du vaisseau C3 Saint-Thomas d'Aquin. De Soya n'hésite qu'une seconde.
Plusieurs critères, amiral. Pour commencer, la destination exacte du vaisseau. Ensuite, la sécurité de l'enfant. Il s'agira de déterminer s'il vaut mieux la laisser se poser ou s'il est préférable de la neutraliser en route et de calculer ses chances d'échapper à notre dispositif.
Vous pensez qu'il y en aura ?
Demande la commandante Barnes-Avny, en pleine forme et resplendissante dans son uniforme noir.
Je ne peux pas prétendre qu'il n'y en ait pas, surtout après ce qui s'est passé sur Hyperion. Mais nous sommes là pour les minimiser.
Si le Gritch se montre,
commence le capitaine Lamprière,
nous avons étudié ce scénario et je ne vois aucune raison pour le moment de modifier nos plans. Cette fois-ci, nous ferons appel, dans une bien plus large mesure, au contrôle de tir informatisé. Sur Hyperion, la créature restait en place moins de 2 secondes, ce qui est beaucoup trop rapide pour une réaction humaine et désoriente les programmes du système de tir automatique. Nous avons donc reprogrammé tous les dispositifs, y compris ceux des armures individuelles de nos fantassins.
« Ce sont des marines qui prendront leur vaisseau à l'abordage ?»
demande un capitaine de patrouilleur au dernier rang.
« Uniquement si toutes les autres méthodes ont échoué d'abord, » réplique De Soya.
Ou si la fillette et ses compagnons ont préalablement perdu conscience dans nos champs de stase.
Vous utiliserez des bâtons de la mort contre la créature ?
Demande un capitaine de destroyer.
C'est prévu, répond De Soya,
à condition que la vie de l'enfant ne soit mise à aucun moment en danger. Autre question ? L'amphithéâtre demeure silencieux.
Le père Maher du monastère de l'Ascension conclura la séance en nous donnant sa bénédiction, annonce De Soya.
Bonne chance à tous.
Chapitre 27. J'ignore au juste ce qui nous a tous poussés à monter dans la chambre du consul, dans le nez du vaisseau, pour assister à la translation dans l'espace normal. Le grand lit, celui où je dormais depuis une quinzaine de jours, était au centre de la pièce, mais il pouvait se replier en une sorte de canapé, et j'ordonnais au système de bord de le faire. Derrière le lit, il y avait 2 cubes opaques, celui du dressing et celui des toilettes et de la salle d'eau. Quand la coque devenait transparente, ces 2 cubes ressortaient, noirs, contre la voûte étoilée. Dès que le vaisseau entama sa dégiration, nous lui demandâmes de désopacifier la paroi. La première chose que nous vîmes, avant que le vaisseau commence à s'orienter pour la décélération, ce fut le vecteur Renaissance. Il était assez près pour nous apparaître sous la forme d'un petit disque bleu et blanc plutôt que comme une étoile, et 2 de ses 3 lunes étaient même visibles. Le soleil brillait sur la gauche de la planète et de ses satellites éclairés. Des dizaines d'étoiles étaient visibles, chose inhabituelle dans la mesure où seuls 2 ou 3 corps célestes avaient généralement un éclat suffisant pour ne pas être occulté par celui du soleil. Aîné nous fit remarquer l'anomalie.
« Ce ne sont pas des étoiles », nous dit le vaisseau en achevant sa lente rotation.
La tuyère à fusion fut mise à feu dans un rugissement sonore, tandis que nous commencions à décélérer vers la surface. Normalement, nous ne serions jamais sortis de ces plus à une si courte distance d'une planète et de ses lunes. Leur puits gravifique rendait les vitesses de dégiration trop dangereuses. Le vaisseau nous avait affirmé que ses champs de force améliorés étaient capables de régler n'importe quel problème. Mais peut-être pas celui-là.
« Ce ne sont pas des étoiles, » répéta-t-il. « Il y a plus de 50 vaisseaux en mouvement dans un rayon de 100 000 km autour de nous. Et il y en a des dizaines d'autres en position de défense orbitale. Trois d'entre eux, des vaisseaux torches d'après leur signature de fusion, se rapprochent actuellement de nous et se trouvent déjà à moins de 200 km. » Aucun de nous n'ouvrit la bouche. Le vaisseau aurait pu s'abstenir de nous fournir cette dernière information.
Les trois traînées de fusion semblaient être à présent juste au-dessus de nos têtes, brûlant à la poursuite de notre vaisseau en décélération, comme des flammes de chalumeau sur le point de nous lécher la figure.
« Il nous envoie un signal, » nous dit le vaisseau.
« Visuel ?» demanda Aîné.
« Audio seulement. »
La voix du vaisseau semblait plus tendue que d'habitude. Les IA étaient-elles capables d'éprouver du stress ?
Écoutons ce qu'ils ont à dire,
déclara la fillette.
Au vaisseau qui vient de pénétrer dans l'espace du système Renaissance,
dit la voix.
Elle nous était familière. Nous l'avions déjà entendue dans le système de Parvati. C'était celle du père capitaine de Soya.
Attention, répéta la voix. Je m'adresse au vaisseau qui vient de pénétrer dans l'espace du système Renaissance.
De quel bâtiment vient l'appel ? Demanda Abétik.
Il regardait à nos côtés les trois vaisseaux torches qui collaient à nous. Sa figure bleue était baignée de la lumière bleutée des réacteurs au plasma au-dessus de nos têtes.
« Origine inconnue, » répondit le vaisseau. « Il s'agit d'une transmission sur faisceau étroit dont je n'ai pas réussi à localiser la source. Elle pourrait provenir de n'importe lequel des 79 bâtiments actuellement sur mes détecteurs. »
J'éprouvais alors le besoin de placer un commentaire, de dire quelque chose d'intelligent.
« Taïo !»
m'écriai-je. Aîné me jeta un bref coup d'œil, puis reporta son attention sur les traînées des vaisseaux torches.
« Temps estimé pour le vecteur Renaissance ?»
demanda-t-elle tout doucement.
« 14 minutes à vitesse delta constante, » répondit le système de bord. Mais ce taux de décélération est interdit dans un rayon inférieur à 4 distances planétaires.
Poursuivez au même taux,
ordonna Aîné.
Attention, je m'adresse au vaisseau qui vient de pénétrer dans l'espace du système Renaissance,
fit la voix de De Soya.
Préparez-vous à être abordé. Toute résistance aura pour conséquence de vous rendre inconscient. Je répète, attention, je m'adresse au vaisseau qui vient de pénétrer dans.
Aîné se tourna vers moi avec un sourire jaune.
Cette fois-ci, le truc de la dépressurisation, ça n'a pas beaucoup de chances de marcher. Hein, Roll ?
Je ne trouvais rien à ajouter à mon taillot de tout à l'heure. J'écartai les bras, les paumes vers le haut.
Attention, je m'adresse au vaisseau qui vient de pénétrer dans le système. Nous allons nous ranger bord à bord. Toute résistance de votre part est inutile. Nous allons fusionner nos champs de confinement.
J'ignore pourquoi. À ce moment-là, tandis que l'androïde et Aîné levaient la tête pour voir les trois traînées de fusion se séparer et les vaisseaux torches devenir visibles à moins de 1 000 mètres de nous, formant les trois petites pointes d'un triangle équilatéral dont nous étions le centre, je fixais les yeux sur le visage de la petite fille. Ses traits étaient légèrement tendus, peut-être, la chose était surtout visible aux commissures de ses lèvres, mais l'un dans l'autre, elle semblait en pleine possession de ses moyens et surtout intéressée par ce qui allait se passer. Ses yeux noirs étaient plus grands et plus lumineux que jamais.
« Attention du vaisseau !»
reprit la voix du père capitaine de la Pax.
« Nous allons fusionner nos champs dans 30 secondes. »
Aîné se leva pour aller au bout de la chambre toucher du doigt la coque transparente. De mon point de vue, elle donnait l'impression de se tenir au sommet d'une haute montagne avec des étoiles et des queues de comètes bleues tout autour, perché au bord d'un précipice.
Vaisseau, branchez-moi sur le système audio à large bande, que tous les bâtiments de la Pax m'entendent,
dit-elle. Le père capitaine de Soya suit les opérations en même temps dans la réalité tactique et dans l'espace réel. En mode tactique, il se tient au-dessus du plan de l'écliptique et voit ses vaisseaux déployés autour de la cible en décélération, comme des points lumineux répartis sur les rayons et le cerclage d'une roue de charrette. Près du moyeu, si près du vaisseau de la fillette qu'ils en sont presque inséparables à l'œil nu, il distingue le Melchior, le Gaspard et le Balthazar. Un peu plus loin, mais décélérant en synchronisme parfait avec les quatre vaisseaux du moyeu, il y a plus d'une douzaine d'autres vaisseaux torches sous le commandement unifié du capitaine Satie du Saint-Antoine. 10 000 km derrière, déployés autour d'un moyeu fictif en rotation très lente, viennent, toujours en décélérant sur une orbite cislunaire du vecteur Renaissance, trois des bâtiments C3 et le porteur Saint-Malo, à bord duquel De Soya observe les opérations, à partir du centre de commandement de combat. Il aurait préféré, naturellement, rester parmi le corps expéditionnaire mage qui referme l'étau sur l'enfant. Mais il sait qu'il serait inapproprié pour lui de se trouver si près du cœur de l'action. Il serait particulièrement blessant pour la mère capitaine Stone, promue la semaine dernière à son poste par l'amiral Serra, de voir son autorité ainsi minée. De Soya assiste donc aux opérations à bord du Saint-Malo, pendant que son Raphaël est sur orbite d'attente autour du vecteur Renaissance, parmi les piquets de défense et les LMA défensifs. Il passe rapidement de la réalité CCC du Saint-Malo, qui commence à être un peu trop encombrée de lumière rouge clignotante, à la vue tactique plus générale où les vaisseaux, avec leurs flammes de fusion, forment des roues en rotation déployées en une sphère géante qui emprisonne de toutes parts le vaisseau de la fillette. Reportant son attention sur le CCC encombré, il remarque les visages congestionnés des observateurs Wu et Brown et de la commandante Barnes-Avni, en contact permanent sur bande étroite avec les 50 marines qui sont à bord des bâtiments du corps expéditionnaire mage. Dans un coin du centre de commandement de combat, il aperçoit Grégorius et ses deux hommes. Ils sont tous trois terriblement déçus de ne pas faire partie de la force d'abordage, mais De Soya les maintient en réserve comme garde du corps pour le retour sur Passem avec l'enfant. Il oriente de nouveau sa liaison étroite sur le bâtiment de la fillette. « Attention, du vaisseau !» dit-il, le cœur battant si fort qu'il le confond presque avec un bruit de fond. « Nous allons fusionner nos champs dans 30 secondes !» Il se rend compte qu'il est terrifié à l'idée que la vie de la petite fille puisse être mise en danger. Si quelque chose doit mal tourner, ce sera dans les 5 minutes qui viennent. Les simulations ont affiné le processus au point qu'il ne subsiste à présent qu'un faible taux virtuel de 6% des champs pour qu'il lui arrive quelque chose. Mais c'est encore trop pour lui. Il a rêvé d'elle chacune des 142 nuits d'attente. Soudain, la bande commune grésille et la voix de la fillette surgit dans les haut-parleurs du centre de commandement de combat. Il n'y a pas d'image cette fois-ci.
« Père capitaine De Soya, veuillez vous abstenir d'essayer de fusionner nos champs ou de nous aborder. Toute tentative dans ce sens se solderait par un désastre. »
De Soya jette un coup d'œil à ses indicateurs. Fusionnement des champs dans 15 secondes. Ils ont déjà passé tout cela en revue dans les simulations. Aucune menace de suicide, cette fois-ci, n'empêchera l'abordage. Moins d'un centième de seconde après le fusionnement des champs, les trois vaisseaux torches mages arroseront le vaisseau cible de rayons étourdisseurs.
« Réfléchissez, père capitaine, »
continue la voix douce de la petite fille.
Notre vaisseau est dirigé par une IA datant de l'époque de l'hégémonie. Si vous nous étourdissez...
Arrêtez le fusionnement !
Aboie De Soya moins de 2 secondes avant que le processus ne soit enclenché automatiquement. Ses voyants indiquent que le Melchior, le Gaspard et le Balthazar ont obéi.
Vous partez du principe qu'il est à base de silicium,
poursuit la fillette.
Mais le cerveau IA de ce vaisseau est à 100% organique. Du type ancien à banque de processeurs ADN. Si vous nous terrassez avec vos étourdisseurs, vous le mettez également hors circuit.
Merde, merde, merde !
Entend De Soya. Il croit au début que c'est lui qui a laissé échapper ces mots à voix basse, mais il se tourne pour voir le capitaine Wu en train de jurer entre ses dents.
Nous sommes en train de décélérer sous 87 gravités,
reprend Aîné.
Si vous neutralisez notre IA, eh bien, c'est elle qui commande nos champs de confinement internes, nos propulseurs et tout le reste.
De Soya se branche sur les bandes techniques du Saint-Malo et des vaisseaux mages.
C'est vrai ce qu'elle dit ?
Demande-t-il.
Cela mettra leur IA hors circuit ?
Il y a un temps de pause insupportable de 10 secondes au moins. Finalement, le capitaine Hearn, qui est ingénieur de formation, lui répond sur bande étroite.
Nous ne savons pas très bien, Federico. Presque tous les renseignements sur la biotechnologie IA ont été perdus ou détruits par l'Église. C'est un péché mortel que de...
Je sais,
coupe de Soya.
Mais est-ce qu'elle dit la vérité? Il doit bien y avoir quelqu'un qui est au courant. Est-ce qu'une IA à base d'ADN est vulnérable si nous bombardons leur vaisseau avec nos étourdisseurs?
Bramley, l'ingénieur en chef du Saint-Malo, intervient dans la conversation.
Père capitaine, à mon avis, ceux qui ont conçu cette IA ont dû protéger son cerveau contre une telle éventualité.
Vous en êtes certain? Demande de Soya.
Non, père capitaine,
répond Bramley au bout d'un moment.
Mais sommes-nous sûrs que cette IA soit à 100% organique?
Insiste de Soya.
Oui,
fait la voix du capitaine Hearn sur bande étroite.
À part les interfaces électroniques et les mémoires à bulles, on peut penser que les IA de cette époque destinées aux vaisseaux spatiaux avaient toute une structure ADN croisée en hélice maintenue en suspension au moyen de...
C'est bon,
fait de Soya sur faisceau étroit multiplex en s'adressant à tous les vaisseaux.
Maintenez vos positions actuelles. Ne laissez pas, je répète... Ne laissez pas le vaisseau de cette fille changer de trajectoire, ni tenter de passer en surgiration C+. Au cas où il commencerait cette manœuvre, fusionnez les champs et mettez les étourdisseurs en action.
Les voyants accusant réception de l'ordre clignotent en provenance des vaisseaux mages et des autres.
Je vous en prie, ne provoquez pas de désastre,
fait la voix d'aînée sur le canal général.
Nous ne désirons qu'une seule chose. C'est nous poser sur le vecteur Renaissance.
De Soya établit la liaison avec son vaisseau sur bande étroite.
Aîné, dit-il d'une voix douce, laisse-nous monter à bord et nous te conduirons sur la planète.
Je préfère m'y poser moi-même,
fait la fillette. De Soya a l'impression de déceler un certain amusement dans sa voix.
Le vecteur Renaissance est un vaste monde.
Reprend le père capitaine tout en surveillant ses affichages tactiques. Ils vont entrer dans l'atmosphère dans 10 minutes.
Où veux-tu te poser exactement?
1 minute de silence complet. Puis la voix d'aîné reprend.
Le port spatial Léonard, à Vinci, ça irait.
Il est fermé depuis plus de 200 ans. Les mémoires de ton vaisseau ne sont donc pas à jour?
Nouveau silence sur les canaux de communication.
Il y a un port spatial de la Pax Mercantilus dans le secteur angulaire ouest de Vinci,
indique de Soya.
Est-ce que ça irait?
Oui,
fait aîné.
Tu vas être obligé de changer de direction, de te mettre en orbite et d'atterrir selon les indications de la tour de contrôle,
déclare de Soya sur bande étroite.
Je t'envoie immédiatement les nouveaux paramètres V-Delta.
Non,
refuse la fillette.
C'est mon vaisseau qui conduira la manœuvre.
De Soya soupire et se tourne vers le capitaine Wu et le père Brown. La commandante Barnes Avni lui souffle.
Mes Marines peuvent les prendre à l'abordage en moins de 2 minutes.
Leur vaisseau entrera dans l'atmosphère dans 7 minutes,
réplique De Soya.
À cette vitesse, la plus petite erreur de calcul risque d'être fatale.
Il reprend la liaison avec Aîné.
Il y a trop de trafic aérien et spatial autour du port de Vinci pour que tu puisses faire ça,
dit-il. Demande à ton vaisseau de se conformer aux paramètres d'insertion orbitale que je viens de lui envoyer si tu veux que...
Désolé, père capitaine,
coupe la fillette.
Mais nous allons nous poser par nos propres moyens. Si vous voulez que la tour de contrôle nous envoie ses instructions d'approche, cela ne peut pas faire de mal. Nous ne reprendrons éventuellement cette conversation qu'après l'atterrissage. C'est moi qui... Terminé.
Zut !
Fait de Soya. Il entre en liaison avec la tour de contrôle de la Pax Mercantilus.
Vous avez suivi cet échange, contrôle ?
Nous transmettons les indications d'approche.
Fait la voix d'un contrôleur.
Hearn, Stone, Boulez !
Aboie de Soya.
Vous nous recevez ?
Affirmatif, réplique la mère capitaine Stone. Nous allons décrocher dans 3 minutes 10 secondes.
De Soya passe en mode tactique suffisamment longtemps pour voir le moyeu et la roue rompre leur formation, tandis que le vaisseau torche passe en V-Delta pour se mettre sur orbite de freinage. Ces vaisseaux ne sont pas conçus pour le vol atmosphérique. Le Saint-Malo est en orbite autour de la planète
et se trouve presque, à présent, sur une trajectoire de collision avec le bâtiment de la fillette qui ralentit à mort avant de pénétrer dans l'atmosphère.
« Préparez mon vaisseau de descente !» ordonne de Soya. « Patrouille atmosphérique ?»
appelle-t-il sur le réseau comme planétaire.
« Oui, père capitaine !»
répond aussitôt la commandante d'escadre Klaus, qui attend en formation de combat avec ses 46 autres scorpions au-dessus de Vinci.
« Vous les avez sur vos instruments ?»«
Les tracés sont excellents, père capitaine !»«
Je vous rappelle qu'aucun coup de feu ne devra être tiré sans que je l'aie ordonné en personne, commandante !»«
Oui, père capitaine !»
Le Saint-Malo va lancer 17 chasseurs chargés de suivre l'objectif jusqu'à son atterrissage. Mon vaisseau de descente sera le numéro 18. Nos transpondeurs seront réglés sur 059.
Bien reçu,
fait Klaus.
Signal sur 059. Un vaisseau ennemi et 18 amis.
Terminé, fait De Soya.
Il débranche l'ombilical qui le relie au panneau du centre de commandement de combat. L'espace tactique disparaît. Le capitaine Wu, le père Brown, la commandante Barnes-Avni, le sergent Gregorius, Ki et Rettig le suivent à bord du vaisseau de descente. Le pilote, une lieutenante appelée Karin Norris-Cook, les attend, tout système de bord paré. En moins d'une minute, tout le monde est sanglé à sa place et le vaisseau s'éjecte d'un tube de lancement du Saint-Malo. Ils ont déjà répété l'opération plusieurs fois. De Soya se connecte au réseau tactique par l'intermédiaire du système de bord au moment où il pénètre dans l'atmosphère.
« Le vaisseau de l'enfant a des ailes !»
fait le pilote. C'est une expression ancienne. Depuis des millénaires, avoir les pieds secs signifie qu'on survole la terre, avoir les pieds mouillés, qu'on vole au-dessus de l'eau, et avoir des ailes, qu'on passe du vol spatial au vol atmosphérique. Une vue du bâtiment cible indique que ce n'est pas littéralement exact. Alors que la documentation sur le vaisseau ancien indique qu'il possède certaines possibilités morphiques, il n'a pas déployé de vraies ailes en l'occurrence. Les caméras des sentinelles orbitales indiquent clairement que le vaisseau poursuivi pénètre au contraire dans l'atmosphère la poupe la première en équilibre sur sa traînée de fusion. Le capitaine Wu se penche vers De Soya.
Le cardinal Lourdes-Amy pense que cet enfant représente une menace sérieuse pour la Pax.
Chuchote-t-elle de manière à n'être entendue que de lui. De Soya hoche la tête sans répondre.
Il voulait peut-être dire que des millions de vies sur le vecteur Renaissance sont en danger à cause d'elle,
murmure Wu à son oreille.
Une tuyère à fusion représente à elle seule un terrible danger. Une explosion thermonucléaire au-dessus de la ville.
De Soya sent ses tripes se glacer sous l'effet de ces mots, mais il a déjà réfléchi à la question.
Non,
réplique-t-il en chuchotant aussi.
Si elle braque sa tuyère sur quoi que ce soit, nous faisons donner nos étourdisseurs, nous lui coupons ses réacteurs et nous la laissons s'écraser au sol. Mais la fillette, nous ne pouvons qu'espérer qu'elle survivra au choc. Il n'est pas question d'accepter la mort de milliers, de millions de citoyens de la Pax.
Il se penche en arrière dans sa couchette d'accélération et commande la liaison avec le port spatial, sachant que le faisceau étroit doit maintenant percer la couche ionisée qui entoure le vaisseau de descente hurlant dans l'atmosphère. Il consulte l'écran vidéo externe et voit qu'ils sont en train de franchir le Terminateur. Il va faire nuit autour du port spatial.
Tour de contrôle, émet alors le directeur du trafic de la Pax. Le vaisseau cible est en train de décélérer sur la trajectoire que nous lui avons attribuée. Vitesse delta élevée, en infraction, mais acceptable. Tout trafic aérien interrompu dans un rayon de 1000 km. Atterrissage estimé dans 4 minutes 35 secondes.
Port spatial bouclé,
annonce la commandante Barnes-Avni sur le même canal. De Soya sait qu'il y a plusieurs milliers de soldats de la Pax à l'intérieur et aux alentours du port spatial. Lorsque le vaisseau de la fillette se sera posé, il ne pourra plus redécoller. Il regarde la vidéo en direct. Les lumières de Vinci brillent d'un horizon à l'autre. Le vaisseau poursuivi a allumé ses feux de navigation. Le rouge et le vert clignotent. Les puissants phares d'atterrissage s'allument et percent les nuages.
Trajectoire correcte, fait la voix tranquille du contrôleur de trafic. Décélération nominale.
Nous recevons une image,
fait la voix de la commandante Klaus sur le réseau.
Conservez vos distances,
ordonne De Soya sur bande étroite. Les scorpions peuvent frapper à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Il n'a pas envie qu'ils s'agglutinent autour du vaisseau poursuivi.
Bien reçu,
Trajectoire conforme. Paramètres de descente nominaux pour atterrissage aux instruments. Temps estimé, 3 minutes.
Fait la voix du contrôleur qui s'adresse au vaisseau de la petite fille.
Engin non identifié, vous êtes autorisé à vous poser.
Silence de la part d'aîné. De Soya passe en mode tactique. Le vaisseau cible est à présent un point rouge presque en suspens à la verticale du port spatial, à 10 000 mètres d'altitude. Le vaisseau de descente de Soya et les chasseurs évoluent 1 000 mètres plus haut, décrivant des cercles comme des insectes en colère.
Ou comme des vautours, rectifie mentalement le père capitaine.
Il y avait des vautours sur le Llano Estacado, importés par les colons dans leur vaisseau d'ensemencement. Nul ne sait pour quelle raison. Le plateau piqueté, les piquets abritaient en réalité des générateurs d'atmosphère disposés en grilles à 30 km d'intervalle les uns des autres, était suffisamment sec et venté pour momifier n'importe quelle charogne en quelques heures.
De Soya secoue la tête pour s'éclaircir les idées.
« Atterrissage dans 1 minute », annonce le contrôleur. « Vaisseau non identifié, vous approchez de la vitesse de descente zéro. Veuillez modifier votre V-delta pour continuer votre approche selon les paramètres indiqués. Vaisseau non identifié, veuillez accuser réception.
« Merde !»
murmure le capitaine Wu.
« Messieurs ?» fait la pilote Karine Cook. « Le vaisseau a cessé sa descente. Il est en vol stationnaire à 2000 mètres au-dessus du port spatial. »«
Nous le voyons bien, lieutenant !» fait De Soya.
Les feux rouges et verts du vaisseau clignotent. Les phares d'atterrissage des ailerons de proue sont assez puissants pour illuminer les pistes du port spatial 2 kilomètres plus bas. Les autres vaisseaux spatiaux stationnés sur le tarmac sont éteints. La plupart ont été rangés dans des hangars ou sur des pistes secondaires. Les vaisseaux qui décrivent des cercles au-dessus des installations, y compris le vaisseau de descente de Soya, sont également sans lumière. Sur bande étroite multiplex, le père capitaine ordonne.
À tous les vaisseaux et engins aériens, maintenez vos distances et ne tirez surtout pas.
Vaisseau non identifié, appelle le contrôleur de la Pax. Vous déviez de votre position nominale. Veuillez reprendre immédiatement votre descente. Vaisseau non identifié, vous quittez l'espace aérien contrôlé. Veuillez reprendre immédiatement votre descente selon les paramètres indiqués.
Bordel !
Laisse échapper Barnes Avni. Ses soldats attendent en cercle concentrique autour du port spatial. Mais le vaisseau de la fillette n'y est plus. Il dérive vers le centre de Vinci. Ses feux d'atterrissage s'éteignent.
« Sa tuyère à fusion ne s'est pas rallumée »,
fait remarquer De Soya au capitaine Wu.
« Il est uniquement sur ses répulseurs. »
Wu hoche la tête, mais elle n'est visiblement pas satisfaite. Un vaisseau à fusion au-dessus d'un centre urbain, c'est un peu comme le couperet d'une guillotine sur un coup nu.
« Patrouille atmosphérique !» appelle De Soya. « Je vais me rapprocher jusqu'à 500 mètres. Rabattez-vous sur moi !»
Il fait un signe de tête à sa pilote qui lance le vaisseau de descente dans une courbe de prédateurs. Derrière le père capitaine, Grégorius et ses deux troupiers se raidissent dans leurs couchettes, revêtus de leurs armures de combat au complet.
« Que diable est-elle en train de nous préparer ?»
murmure la commandante Barnes Avni. Sur sa bande tactique, De Soya voit que la commandante a autorisé une centaine de troupiers à sortir, propulsés par leur paquetage à réaction, pour suivre le vaisseau qui dérive. Pour les caméras extérieures, ces troupiers sont encore invisibles. De Soya se souvient subitement du petit engin ou paquetage volant qui a enlevé la fillette dans la vallée des tombeaux du temps. Il ouvre la liaison avec le contrôle au sol et les sentinelles orbitales.
Détecteur, est-ce que vous surveillez bien les petits objets qui pourraient quitter le vaisseau cible?
Le vaisseau sentinelle de commandement lui répond aussitôt.
Affirmatif, père capitaine. Ne vous faites pas de soucis. Rien de plus gros qu'un microbe ne peut quitter ce vaisseau sans être immédiatement détecté.
Parfait,
réplique De Soya.
Qu'est-ce que j'ai donc oublié?
Le vaisseau d'aîné continue de dériver lentement au-dessus de Vinci. Il fait route nord-nord-ouest à 25 km à l'heure environ, tel un gros dirigeable en position verticale, poussé par le vent. Au-dessus de lui tournoient les chasseurs qui sont entrés dans l'atmosphère en même temps que le vaisseau de descente de Soya. Et autour de lui, tel un cyclone pivotant sur son œil, volent les scorpions de la patrouille atmosphérique. Au-dessous, évoluant au ras des bâtiments et des ouvrages d'art de la cité, suivant les opérations grâce aux capteurs infrarouges et aux radars de poursuite de leur combinaison, il y a les marines et les soldats du port spatial.
Le vaisseau d'aîné flotte sur ses répulseurs EM silencieux au-dessus des gratte-ciel et des zones industrielles de Vinci sur le vecteur Renaissance. La cité brille des mille feux de ses autoroutes, ses avenues, ses immeubles, ses stades et ses parkings. Des dizaines de milliers de véhicules au sol forment des chenilles lumineuses dont la lente reptation ajoute à la féerie générale.
Le vaisseau est en train d'amorcer un mouvement de rotation, toujours sur ses répulseurs, annonce la pilote.
Sur sa vidéo, comme en mode tactique, De Soya voit le vaisseau d'aîné qui bascule lentement de la verticale à l'horizontale. Aucune aile ne se forme sur la coque. Cette position doit paraître étrange aux passagers, mais n'offre aucune différence pratique. Les champs internes doivent s'adapter pour déterminer le haut et le bas. Le vaisseau, qui ressemble plus que jamais à un dirigeable argenté dérivant sous l'action d'une douce brise, flotte au-dessus du fleuve et des gares de triage du nord de Vinci. La tour de contrôle continue ses appels impératifs, mais les canaux com demeurent totalement silencieux.
Quel est le détail qui m'a échappé ?
Se demande une fois de plus le père capitaine de Soya. Quand Aîné ordonna au vaisseau de se mettre à l'horizontale, j'avoue que je ne fus pas loin de perdre momentanément mon calme. La sensation de perte d'équilibre était presque insupportable. Nous nous trouvions tous les trois à l'entrée de la chambre circulaire, regardant vers le bas comme si nous nous penchions du haut d'un précipice à la paroi lisse et noire. Lorsque nous commençâmes à basculer vers les lumières qui brillaient plus de 1000 mètres au-dessous de nous, Abétik et moi ne pûmes nous empêcher de reculer vers le centre de la chambre. Je brassais même l'air de mes deux mains pour conserver mon équilibre. Seul Aîné demeura tranquillement au bord de la coque transparente, contemplant le sol qui montait pour devenir une muraille de lumière et de bâtiments urbains. J'avais failli me laisser tomber sur ma couchette pour m'y sangler, mais je fis l'effort de demeurer debout et de lutter contre le vertige en me représentant le sol comme un grand mur devant lequel nous passions. Pivotant sur moi-même en un tour complet, je vis les étoiles les plus lumineuses briller derrière moi à travers le halo de lumière de la cité dont les nuages reflétaient la coloration orange.
« Qu'est-ce que nous attendons à présent ?» demandai-je.
À intervalles réguliers, le vaisseau annonçait la présence de multiples engins aériens qui tournaient autour de nous et de nombreux détecteurs qui nous suivaient. Nous lui avions ordonné de couper le son du canal de communication avec la tour de contrôle. Aîné voulait voir le fleuve. Nous étions à présent juste au-dessus de lui. Son ruban noir et sinueux tranchait sur les lumières de la ville. Nous nous laissâmes glisser au-dessus de lui en direction du nord-ouest. De temps à autre, une barge ou un bateau de plaisance illuminé passait en bas. Mais de notre point de vue, cela ressemblait plutôt à des lumières qui montaient ou descendaient collées à la paroi verticale de la cité. Au lieu de me répondre directement, Aîné demanda
« Vous êtes sûr, vaisseau, que cette partie du fleuve appartenait bien au Tétis ?»«
D'après les cartes que je possède, oui. Mais naturellement, ma mémoire n'est pas là !» s'écria Abétik en indiquant du doigt un point situé plus avant sur la ligne noire du fleuve. Je ne voyais absolument rien, mais Aîné réagit en commandant au vaisseau
« Descendez ! Vite !»
Les marges de sécurité ont déjà été violées. Si nous descendons encore, nous risquons
« Faites ce que je vous dis !»
hurla l'enfant.
« Commande prioritaire, code 6, prélude, do dièse, obéissez !»
Le vaisseau piqua du nez et fila en avant.
« Dirigez-vous vers cette arche là-bas !»
lui dit Aîné en montrant un endroit situé dans le prolongement du fleuve noir, sur le mur de la ville.
« Une arche ? » demandai-je.
C'est alors que je l'aperçus. Une corde noire. Un arc de ténèbres sur fond de lumière urbaine. Abétik regarda l'enfant.
Je m'attendais presque à ce qu'elle ait disparu, ou qu'elle soit tombée en ruine.
Aîné découvrit ses dents en un sourire acerbe.
« Impossible de la détruire. Il faudrait des bombes atomiques, et ce n'est pas sûr que ça marche. C'est le technocentre qui les a fait construire. Elles sont conçues pour durer. »
Le vaisseau était à présent mu par ses répulseurs. J'apercevais clairement l'arche du portail d'Istrance qui formait un cerceau géant en travers du fleuve. Un ensemble industriel s'était construit autour de l'ancien artefact, mais les voies ferrées et les entrepôts étaient vides, le béton était craquelé, l'herbe poussait partout, les machines rouillaient et leurs carcasses pourrissaient sur place. Le portail était maintenant à 1 kilomètre de nous. Je voyais briller les lumières de la ville à travers lui. Ou plutôt, il semblait miroiter légèrement, comme si une cascade mince se déversait du haut de la voûte de métal.
« On va y arriver !»
hurlai-je. Je n'avais pas plus tôt prononcé ces mots qu'une violente explosion ébranlait le vaisseau et que nous commencions à plonger vers le fleuve.
« Le vieux portail d'Istrance !»
s'écrie de Soya. Il avait remarqué l'arche 1 minute plus tôt, mais il croyait que c'était encore un pont. Il comprend soudain.
« Il se dirige vers le portail. Cette section du fleuve faisait partie du Tétis !»
Il passe en mode tactique. Pas d'erreur, le vaisseau est en train d'accélérer en direction de l'arche. «
Calmez-vous !»
lui dit la commandante Barnes-Avni. « Ces portails ne fonctionnent plus, ils sont hors service depuis la chute. Il est impossible de… »«
Plus vite ! Rapprochez-vous d'eux !»
hurle de Soya à l'adresse de la pilote. Le vaisseau de descente accélère. Ils sont projetés au creux de leur profonde couchette. Il n'y a pas de champ de confinement interne à bord de ces bâtiments.
« Rattrapez-les !»
glapit de Soya qui passe sur bande générale de commandement pour ajouter
« À tous les engins aériens, convergez immédiatement sur l'objectif !»«
Ils y seront avant nous !»
fait la pilote Cook, plaquée contre le dossier de son fauteuil par une force de 3G.
« Commandant de patrouille aérienne !»
crie de Soya d'une voix déformée par l'accélération.
« Ouvrez le feu sur l'objectif! Visez les moteurs des répulseurs! Exécution !»
Des rayons d'énergie trouent la nuit. Le vaisseau de la fillette semble faire un bond dans les airs, comme une bête frappée à mort, puis tombe dans le fleuve à plusieurs centaines de mètres du portail d'Istrance. Une explosion de vapeur monte en champignons dans la nuit. Le vaisseau de descente vire autour de la colonne de vapeur à une altitude de 1000 mètres. L'air est rempli d'avions qui font des cercles et de troupiers volants. Les canocoms laissent soudain passer des commentaires enthousiastes.
« Silence !»
ordonne de Soya sur la fréquence générale.
« Commandant de patrouille, voyez-vous le vaisseau ?»«
Négatif !»
répond Klaus.
« Trop de vapeur et de débris dû à l'explosion !»«
Y a-t-il vraiment eu une explosion ?»
interroge de Soya. Sur bande étroite, il s'adresse aux sentinelles 1000 kilomètres plus haut.
« Que disent vos radars? Vos détecteurs ?»«
L'objectif est au sol !»
lui répond-on.
« Je le sais déjà, imbécile! Pouvez-vous le détecter sous la surface du fleuve ?»«
Négatif !»
répond la sentinelle. « Trop de débris volants ou au sol. Le radar est incapable de séparer… »«
Zut !»
fait de Soya.
« Mère Capitaine Stone !»«
Oui !»
répond aussitôt la voix de son ex-officier en second à bord du vaisseau torche en orbite.
« Scorifiez tout !»
ordonne le père capitaine. « Le portail, le fleuve, tout !»«
Arrosez-moi tout ça pendant 1 minute entière, jusqu'à ce que tout soit vitrifié !»« Attendez !»« Exécution dans 30 secondes !»
Il repasse sur bande tactique.
« À tous les engins et troupiers volants au voisinage du portail, vous avez 30 secondes pour vous retirer avant que le secteur soit arrosé au RCC !»
La pilote de son vaisseau de descente réagit aussitôt. Elle vire à mort et accélère en direction du port spatial à Mach 1,5.
« Hé ! Oh !»
s'écrie de Soya d'une voix déformée par les jets.
« 1 kilomètre de distance, c'est suffisant ! Je veux assister au spectacle !»
Les affichages visuels et tactiques se transforment alors en une démonstration vivante de la théorie du chaos. Des centaines d'engins et de troupiers volants fuient le portail comme s'ils étaient poussés par le souffle puissant d'une explosion. Tout le secteur est bientôt vide sur les écrans des radars, tandis que le rayon violet descend de l'espace. Il fait 10 mètres de large et brille d'un éclat insoutenable. Le RCC frappe l'antique portail d'Istrance en plein dans le mille. Le béton, l'acier et le ferroplaste se fondent en lacs et en rivières de lave sur les deux rives du vrai fleuve. Celui-ci est vaporisé en un instant. Il envoie une onde de choc et un nuage de vapeur sur des kilomètres dans toutes les directions et au-dessus de la cité. Cette fois-ci, le champignon grimpe jusqu'à la stratosphère. Le capitaine Wu, le père Brown et tous les autres se tournent vers le père capitaine de Soya. Celui-ci les entend presque penser « la petite fille devait être capturée vivante ». Il ignore leur regard et demande à sa pilote.
Je ne connais pas bien ce modèle de vaisseau de descente. Peut-il rester en vol stationnaire ?
Seulement quelques minutes,
répond-elle, le visage luisant de transpiration sous son casque.
Descendez jusqu'à l'arche et maintenez-vous au-dessus du portail, ordonne de Soya. 50 mètres de distance si vous pouvez.
Père capitaine,
les ascendants thermiques et les ondes de choc des explosions de vapeur.
Faites ce que je vous dis, lieutenant.
La voix du père capitaine est mesurée, mais ne souffre pas la contradiction. Ils se mettent en vol stationnaire. Des jets de vapeur et une brune dense remplissent l'atmosphère, mais les feux de leurs projecteurs et leurs radars haut profil les percent aisément. L'arche d'Istrance, portée à blanc par le rayonnement, est entourée d'un halo pulsant, et elle tient toujours debout.
« Incroyable !» murmure la commandante Barnes-Avni.
La mère capitaine Stone intervient sur la bande tactique.
« Père capitaine, l'objectif a été touché, mais il est encore debout. Voulez-vous que je l'irradie de nouveau ?»«
Non, » fait de Soya. Sous l'arche, le fleuve s'est cautérisé. L'eau reflue à présent dans le sillon super chaud. De nouveaux jets de vapeur montent, tandis que les rives d'acier et de béton vitrifié sont inondées. Le sifflement est audible par le truchement des capteurs externes. La surface du fleuve bouillonne. Il y a des tourbillons partout, entraînant les débris de toutes sortes en une ronde folle. De Soya relève la tête, abandonnant un instant ses moniteurs. Il voit que tous les autres ont les yeux braqués sur lui. Les ordres étaient de capturer la fillette vivante et de la conduire sur Passem.
Commandante Barnes-Avni, dit-il de sa voix officielle, veuillez ordonner à vos troupes de se poser et de commencer une fouille systématique des abords du fleuve et de tout le secteur environnant.
À vos ordres, répond Barnes-Avni.
Elle se connecte au réseau de commandement et relaie l'ordre. Ce faisant, elle ne quitte pas un seul instant des yeux le visage du père capitaine de Soya.